Mesdames, Messieurs, on va reprendre. Et je voudrais reprendre l'idée de la Méditerranée comme une des images que nous évoquons quand nous évoquons l'Europe. Nous allons parler aussi de les mythologies du nord de l'Europe, qu'on n'a pas touché à ça. Mais quant aux mythologies de la Méditerranée, l'idée, l'imaginaire de la Méditerranée. Laurent, tu t'es tendu un peu là-dessus, mais tu n'as pas répondu à la question que j'ai lancée à la fin. Et l'Afrique du Nord.
Ah, et l'Afrique du Nord.
Et maintenant, il faut que je réponde.
Et l'Afrique du Nord. Alors... C'est probablement la raison qui me fait aimer cette double cartographie européenne d'une part et méditerranéenne d'une part. C'est que si on ne prend que la carte européenne, et quand je dis européenne, je parle essentiellement de la construction européenne, effectivement, il manque à la fois la rive sud de la Méditerranée, mais également la rive est de la Méditerranée. Je pense que l'espace méditerranéen est riche, effectivement, évidemment des pays du Maghreb, mais aussi, si vous voulez, on parle toujours nord-sud quand on parle de Méditerranée, mais il faudrait aussi parler est-ouest, parce que pendant longtemps, et à nouveau d'ailleurs maintenant, séparation, entre guillemets, ou ce dialogue entre l'Est et l'Ouest de la Méditerranée est extrêmement important. Je pense au Liban, je pense à la Turquie, bien sûr. Et c'est vrai qu'il me semble que cette entité méditerranéenne a l'énorme privilège de pouvoir englober ces entités-là. Avec l'Europe, évidemment, je vais être moins optimiste, parce que notamment vis-à-vis des pays du Maghreb, parce que tu parlais des mers tout à l'heure, et tu nous avais donné rendez-vous avec ce sujet-là, les mers. La mer Méditerranée, depuis 10 ans, est en train de devenir ce qu'a été ou ce qu'est l'Atlantique pour la culture caribéenne, c'est-à-dire un cimetière et un endroit où des âmes meurent, où des corps se perdent. Et ça, ça va irriguer longtemps, je pense, dans nos relations. La violence de cette réalité-là, elle ne cesse de nous questionner, nous, Européens. Nous sommes ceux qui, par notre comportement politique, avons acté d'une certaine manière ou permis cela. Alors il y a des gens qui sont contre, il y a des gens qui militent, il y a des gens qui se battent, mais c'est vrai que je crois vraiment que politiquement c'est quelque chose de durable, la question des trajets de Méditerranée. Vous savez, moi j'ai écrit ce roman dont je parle parfois, Eldorado, c'était en 2005. Alors aujourd'hui, parfois il y a des gens gentils qui me disent: ah, vous étiez vraiment prémonitoire. Mais pas du tout. Mais absolument pas. Si j'ai écrit ce livre, c'était déjà en réaction à une réalité qui était terrible. Donc ça veut dire que ça fait au moins quasiment 20 ans que l'Europe ne sait que faire de cette question-là et qu'elle réagit de manière, comment dire, au jour le jour, sans réfléchir à une hospitalité d'État, par exemple, sans réfléchir à une réponse pérenne dans le temps. Alors je ne dis pas que c'est simple, hein, mais je suis frappé par, si on prend notamment la France, par l'absence de réflexion au long cours vis-à-vis de ça. On monte un camp, on l'enlève, ça s'appelle Sangatte un jour, et puis la jungle de Calais un autre jour, et au gré des présidents, d'ailleurs, quels qu'ils soient, finalement cette situation évolue peu. Notre devoir d'inventer une hospitalité d'État, pour l'instant, elle n'est pas, je ne suis pas très, très optimiste.
Je voudrais reprendre certains thèmes que j'ai traités le long de notre cours, et je voudrais que nos invités réagissent devant ces traits d'identité qu'on a essayé de chercher dans l'idée d'Europe à travers les œuvres littéraires que nous avons vues. Donc, la première concernant l'Odyssée était le nomadisme. Nous avons parlé maintenant de réfugiés, nous parlons d'immigration, mais il y a dans l'idée même de ce qui est une européenne, l'idée de nomade, l'idée de traverser les frontières et l'idée de la multiplicité des langues, justement, à cause de cette traversée des frontières. Umberto Eco a dit la phrase célèbre que la langue de l'Europe est la traduction. Et traduction, comme vous le savez, veut dire aller d'un endroit à l'autre, porter d'un endroit à l'autre. Est-ce que vous voulez parler de l'idée de nomadisme et traduction dans l'idée que vous vous faites de l'Europe? Commencez par Ruth.
Nomadisme. Je veux commencer avec l'exhibition à la British Museum aujourd'hui à Stonehenge. Et j'ai vu une plaque de l'âge bronze, je pense 1500 années avant Jésus-Christ, qui était la première description graphique de cosmos, le soleil, les étoiles et la lune. Il était découvert à Germanie. Et l'or du soleil et la lune était DNA, je ne sais pas comment, était de Cornwall. C'est extraordinaire. Le nomadisme et le commerce des métaux, de toute façon, commence à la même temps. Même dans l'âge de bronze. Oui, je pense.
Donc le nomadisme très ancien. Bailly?
Je ne sais pas si je peux dire quelque chose directement lié.
Tu peux faire ce que tu veux, tu peux chanter, tu peux danser.
Et c'est justement ça. Je crois qu'après toute une journée de paroles, de discours comme ça, peut-être il y a ceux parmi vous qui sont comme moi, vous êtes sans mots. Moi, je me trouve un peu... Je n'arrive pas à m'exprimer maintenant. Et je crois qu'une des caractéristiques de nomadisme, d'errance, d'immigration, d'être loin de soi, chez soi, ou tout ce qu'on peut dire... comme signaler la condition of homelessness, sans-abri, si on peut dire, psychologique, c'est de se trouver dans une sorte de muettisme. On ne peut pas parler. Et on a discuté un tout petit peu pendant notre déjeuner ensemble, et j'étais frappée par l'importance d'avoir les voix de hors de toi, pour quelqu'un qui peut dire quelque chose pour toi, un avocat si tu veux, quelqu'un qui peut prendre la parole pour toi quand tu es vraiment sans mots.
Je veux ajouter que pendant le déjeuner, Ruth nous a raconté une histoire à propos de nomadisme et mutisme, perte de parole, que je voudrais que tu racontes à notre public.
C'est encore une fois à Lesbos. Il y avait une jeune fille allemande qui a aidé dans un camp de réfugiés. Et elle a rencontré une femme syrienne qui a perdu ses enfants, ses deux enfants. Son mari était tué par ISIS. Et elle était très triste. Et la femme allemande a pris une photo avec son portable. Et la femme a dit que peut-être ils sont en Germanie, car...
En Allemagne.
En Allemagne, oui. Et la jeune fille est retournée à l'Allemagne. Elle a cherché les enfants dans quelques cités. Elle a trouvé une dans une cité et le fils dans une autre. Et tous les deux enfants ont devenu mutes.
Avaient perdu la parole.
Ouais. On peut pas
quand
parler.
Ils ont perdu la mère, ils ont perdu la parole.
Ils étaient si traumatisés. Et la jeune fille a montré
la photo de la mère
et ils commençaient à parler.
Laurent ?
Encore, sûrement, une fois. C'est ton tour.
C'est mon tour, sur le nomadisme. Sur le nomadisme, je ne sais pas si ça rentre tout à fait dans la question, mais je vais quand même le tenter. Moi, je suis frappé par le fait qu'il y a encore beaucoup d'endroits en Europe, et notamment, je pense à l'Italie du Sud, mais à l'Irlande, où il y a encore une mémoire familiale possible du départ, de l'exil, de la nécessité de partir, et que cette chose-là, et même pour parler peut-être de choses moins tragiques que le grand départ des Irlandais, ou en tout cas une émigration intérieure, par exemple en Italie du Sud, que je connais quand même bien, il y a énormément de familles dans lesquelles, très concrètement, il est inscrit une sorte de fatalité du départ, parce que le travail, c'est au nord, parce que les études même, c'est au nord. Donc cette culture de savoir ce que c'est que d'avoir rendez-vous avec le départ comme une fatalité, nous ramène peut-être effectivement à cette figure d'Ulysse qui effectivement a quelque chose à voir profondément avec l'Europe et la Méditerranée. Et évidemment, c'est une douleur, mais je pense que c'est aussi très précieux et que probablement c'est une capacité de savoir ce que c'est que d'avoir dû partir. C'est pas rien, voilà. Et ça crée à l'inverse...
Alessandra, nomadisme et l'Europe.
Alors, je veux vous remercier, Alberto, parce que dans les choses, dans ce que j'étudie, le nomadisme est souvent vu comme un état d'esprit à atteindre, surtout depuis Deleuze et Guattari. Mais l'Africain, dans cela, devient un outil de la pensée, de l'état d'esprit, de surtout l'homme européen. Donc on va voyager ailleurs, et je pense que beaucoup de nos films, l'un des derniers films d'Antonioni, se rend compte un peu de cette problématique. Et le fait que vous gardiez l'idée de nomadisme, et surtout la douleur que nous avons tous évoquée, et c'est là où j'aimerais aller, c'est au début, on a discuté de la nécessité d'avoir un chez-soi. Et la raison pour laquelle j'ai un contact avec Alberto, c'est parce que je cherchais l'auteur d'un livre, Craig Stevenson, qui avait écrit un livre sur la possession chez Jung. Comment est-ce qu'on dit Jung? Carl Jung. Et l'idée d'être possédé, c'est de trouver son siège, d'être assis en soi. Donc, pourquoi est-ce que l'idée de la possession, qui maintenant n'est pas vraiment respectée parmi les anthropologues, mais plutôt être visité par les ancêtres ou par un esprit, est tellement important chez les vaudouisants ou le candomblé ou la santeria? C'est l'une des raisons, et c'est grâce au travail de Craig Stevenson que plusieurs d'entre nous ont pu faire différents liens. C'est qu'on a besoin d'être ancré quelque part. Donc même quand on est nomadisé à une extrême douleur, il faut trouver un chez-soi. Et le corps est le chez-soi. Et être visité par ses ancêtres, par ses parents, par des esprits. C'est extrêmement important à être ancré, à trouver son siège. Et pour terminer, quand j'étais en train de faire cette recherche, Michel Leris a beaucoup écrit sur la possession parmi les arts au Soudan. Et le Soudan, c'est à côté de l'Éthiopie. Et quand beaucoup de Juifs éthiopiens sont partis en Israël, après des générations, des siècles, des chercheurs en Israël ont trouvé qu'ils ont recommencé à pratiquer la possession zar. Donc, pour montrer que quand on est vraiment perdu, quand on ne se sent pas à sa place dans une nation, une culture, on retrouve une pratique du corps qu'on peut nommer possession, que l'on peut nommer être visité par. Mais je pense que ce sens de nomadisme est très important à tenir en compte.
Le livre de Craig Stevenson s'appelle Possession. Il va être traduit en français. Et c'est à ce que Alessandra faisait référence, c'est que Stevenson fait la différence entre obsession et possession. Obsession est quelque chose qui est assis en dehors de nous. Possession est ce qui est assis à l'intérieur de nous. Donc, nomadisme, pour le Portugal, c'est très important.
Parce qu'elle ne veut pas travailler.
Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux que je dise. Il y a beaucoup de façons de parler là-dessus. D'un côté, je dirais aussi, je ne sais pas si on, avec le nomadisme, il y a toujours la question du déracinement. Donc, c'est de notre nature être nomade. Pourquoi est-ce qu'on est nomade? Dans le passé plus récent, les Portugais ont été nomades. Plutôt parce que pour des raisons économiques, ils ont immigré en France, par exemple, au XXe siècle, pour des raisons politiques aussi, à cause de la dictature. Il y a beaucoup d'immigrants, soit en Europe, en France, en Belgique, plutôt en Amérique latine. Il y a des chaînes migratoires très intéressantes au XXe siècle dues à des questions politiques. À cause de la dictature dans laquelle on a vécu beaucoup d'années. Aussi, on a, dans les îles atlantiques, il y a eu beaucoup d'émigration vers les États-Unis. Les gens d'Açores, de Madeira, ils ont émigré aussi en Afrique, en Afrique du Sud, par exemple, les gens de Madeira. Mais avant, au XIVe siècle, au XVe siècle, tous ces esprits nomades, c'était beaucoup plus, c'était une autre question, disons plus existentielle comme pays. Notre pays avait la seule frontière avec l'Espagne. Alors l'histoire du Portugal, c'est fait dans ces années toujours de sa relation avec l'Espagne. Et pendant toute cette époque, la seule sortie, c'était la mer. Donc, on est allé vers la mer d'une façon, avec un esprit de curiosité. On ne savait pas tellement au début qu'est-ce qu'on allait trouver. C'était un peu de point de vue politique pour faire l'équilibre, parce que l'Espagne était un empire un pouvoir continental. Donc la mer, c'était la sortie de la pression terrestre pour les Portugais. Donc il y avait cette pression de la frontière terrestre pour les Portugais. Il y avait notre plus ancienne alliance, c'était avec le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne. Donc nos équilibres géopolitiques se faisaient par rapport à la mer. Et donc, c'est comme ça aussi qu'on est devenu nomade et on est devenu, avec l'Espagne, les premiers empires coloniaux. Et donc, on est allé On a voyagé partout, en Asie, on a eu à l'époque le plus grand empire colonial. Et déjà, le Portugal a eu aussi cette idée de... Je ne sais pas si on, qu'est-ce qu'on, si on doit dire... On a été très, très conscient dès le départ qu'on était petit pour un territoire si grand. Donc, notre politique dès le 15e, le 16e siècle, c'était de nous mélanger avec les autres. C'était une politique officielle de la cour portugaise, c'est de faire des mariages avec des locaux parce qu'on n'avait pas des nationaux. Nous étions très peu pour toute l'immensité de cet empire, mais cet empire, pas empire, mais avec ça, toute cette question, tout a été aussi une question de transporter la culture européenne, dont on peut dire qu'on a été, à l'époque de l'expansion, du début de l'expansion, nous étions les plus européens des peuples, parce que c'est nous qui ont commencé à faire la divulgation de la culture européenne dans le monde, avec tout ce qu'elle a eu de positif et de négatif. Donc, peut-être je m'arrêterai pour l'instant.
L'Ukraine a un nomadisme tout nouveau, parce que est-ce que les Ukrainiens ont beaucoup bougé avant cette guerre ?
En étant historienne, je voudrais bien vous découvrir les cultures très anciennes du territoire de l'Ukraine, parce qu'on a parlé beaucoup de nomades, mais on a oublié un peu des agriculteurs. Et moi, je vous propose de faire un discours en histoire pour voir comment la mentalité peut être liée avec le style de vie. C'est bien connu que beaucoup de tribus, au passé, on a eu la vie de nomades. Et les nomades, qu'est-ce que c'est les nomades? On peut dire que c'est la découverte, mais c'est aussi l'agressivité. C'est l'agressivité, mais c'est aussi des guerres. Mais on peut dire aussi interpréter ça comme l'ouverture vers le monde. C'est la nécessité de découvrir aussi des espaces. Si on revient vers l'archéologie, bon, les cultures de l'Égypte et de Grèce sont assez connues. Mais je vous propose de découvrir une culture archéologique qui se retrouvait sur les terres de l'ancienne Ukraine, qui n'était pas l'Ukraine, bien sûr, à l'époque, et de Roumanie. Cette culture archéologique s'appelle Tripil. C'était une culture très ancienne des agriculteurs qui était vraiment très développée. Déjà, ces personnes, on a essayé de créer presque ancienne ville, donc les anciennes villes. C'était la culture des gens qui ont travaillé sur la terre. Et on sait que la qualité des terres de l'Ukraine, c'est la terre noire. La vie d'agriculteur, je pense, c'est un peu différent que la vie de nomade. On peut peut-être définir les sociétés des agriculteurs comme plutôt les introvertis. Mais pourquoi? Parce que les agriculteurs se concentrent sur eux-mêmes. Quelle est la tâche des agriculteurs? C'est améliorer leur propre société, donc c'est améliorer leur propre monde. C'est un peu à l'opposé de nomades, le style de vie. Finalement, après une longue histoire, cette culture de Tripil, elle est disparue. On ne connaît pas vraiment le destin, mais il y a des hypothèses des archéologues que finalement on est des héritiers directs de cette culture qui était tout simplement transformée, qui était transformée dans des autres cultures. Donc du coup, peut-être l'Europe ne doit pas nier aussi cette racine ancienne, racine des agriculteurs qui se retrouvaient sur les terres d'Ukraine et de la Roumanie. Et est-ce qu'il y a certaines traces qu'on découvre maintenant? Bien sûr, c'est uniquement des hypothèses, mais la terre noire de l'Ukraine et le destin de l'Ukraine, c'est peut-être travailler sur la terre et mener, on peut dire, la vie paisible. Le problème, c'est que cette terre était presque en permanence, on peut dire, attaquée par les nomades, parce que les terres riches, bon, c'était aussi attirant pendant la Deuxième Guerre mondiale, il ne faut pas oublier la qualité de la terre noire, c'était attirant pour les Allemands. En faisant ce long discours en Ulster, je voudrais souligner que dans la mentalité des Européens, peut-être quand même, il y a l'influence pas que des nomades, mais aussi des agriculteurs, ce qui donne un peu la perception du monde. Mais dans le cas des dangers, quel est le choix pour les agriculteurs? C'est soutenir leurs terres, donc c'est faire la guerre contre les nomades pour protéger leur propre espace. Donc l'Ukraine, maintenant, n'a pas de choix que soutenir son propre espace. Et peut-être c'est une pure répétition de l'histoire, ce qu'on a maintenant. Ce n'est pas vraiment tout nouveau, mais la répétition.
C'est important ce que vous dites, parce que ça nous montre que nous choisissons ce que dont nous voulons nous souvenir. C'est-à-dire que l'Europe fait des choix. Et par exemple, elle ignore ou ne veut pas se souvenir de cette relation entre l'agriculture et la guerre qui est si importante et qui marque beaucoup de l'histoire de l'Europe. Donc, ce choix de mémoire que nous faisons pour nous identifier, Katharina, veux-tu adresser ce que tu penses d'où est la mémoire de l'Europe? L'Europe comme identité a une mémoire, que ce soit la mémoire de la Grèce, que ce soit la mémoire du Moyen-Âge, que ce soit la mémoire des deux guerres mondiales. Donc, quelle est la mémoire que nous devons choisir pour nous définir comme Europe?
Je crois que c'est un peu difficile de répondre. C'est toutes ces mémoires que tu as. Pour nous, les Européens, je crois que c'est plus la culture gréco-romaine, l'Empire, le Moyen-Âge, la question de la science, la révolution scientifique, ce qui a commencé en Europe. Et c'est un des défis qu'aujourd'hui, on est encore... on est là sur l'extrême de la révolution scientifique. Qu'est-ce qu'on fait avec l'intelligence artificielle, avec tout ça? C'est quelque chose qui a commencé en Europe.
Mais tu disais que tu te définissais comme européenne. Aujourd'hui, avec une mémoire de l'Europe face à l'Amérique, par exemple.
Oui, je dirais plutôt, je crois qu'en Europe, dans les pays de l'Union européenne, parce que quand on parle de l'Europe, il y a tout un modèle social et the rule of law, l'idée de rule of law, le respect des droits humains qui sont encore très forts. Et une certaine peut-être relation à l'argent qui n'est pas la même que maintenant aux États-Unis, quand les États-Unis ont subi dans les dernières années tous ces changements, il y a quelque chose qu'on sent, qu'on se définit maintenant par rapport aux États-Unis. C'est quelque chose, je trouve, de nouveau dans ce contexte de mondialisation, parce que par exemple le Covid, la façon dont le système de santé aux États-Unis a géré sa crise, c'est pour moi c'est très 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 évident de la sensibilité, de valeur de la vie humaine, de la santé, du rapport entre l'État, le rôle d'État et oui, du rôle de la société civile. Donc si, même en Europe, aujourd'hui, on vit dans le paradigme néolibéral, qui a été un modèle d'origine anglo-saxonne qui s'est imposé partout dans le monde, de toute façon, nous avons encore certaines défenses au niveau de l'Europe, de l'Union européenne, même si elles ont été remises en cause. Mais je crois maintenant qu'elles sont de nouveau je crois qu'on vit maintenant avec tout ce bouleversement que la guerre en Ukraine a créé. On est tout d'un coup beaucoup plus attentif et à ce qui nous distingue, qui nous distingue, et quelques bonnes choses que l'Europe a encore et qu'il faut protéger aussi, notamment les droits humains, la liberté de parole et le rule of law. Oui. Je crois que c'est quelque chose de très, très important qui est encore présent en Europe et qu'on veut garder comme une valeur positive à protéger pour l'avenir, je trouve.
Et à cela s'ajoute ce que Alessandra disait sur la mémoire du postcolonialisme que donne à la mémoire d'Europe ce chapitre qu'on a voulu oublier sur l'esclavage et la soumission des autres, non ?
Oui, voilà, à la question de la mémoire de qui, on privilège la mémoire de qui. Et je suis obsédée en ce moment par la question de la haine et de la vengeance et de ce qui se passe après que l'on a été victime de quelque chose d'horrible. Comment est-ce qu'on passe à une prochaine étape et comment est-ce qu'on valorise... Laurent a parlé de la passion. Je pense qu'il y a beaucoup de passion, mais souvent, cette passion est soit... comprise comme la haine ou être fâché, une colère qui n'a pas un sens. Et pour moi, je suis obsédée par l'idée de légitimiser la colère dans l'espace public. Donc ça, c'est le côté négatif, si je devrais dire, ou c'est-à-dire pas vers quelque chose d'avenir. Mais au déjeuner, on parlait de cela aussi. Comment est-ce qu'on crée des moments de relationnels entre nous? Comment est-ce qu'on peut, dans les mots de Fanon, le grand anticolonialiste, comment est-ce qu'on pourrait juste chercher à s'aimer l'un et l'autre? Et pour moi, ça, c'est l'avenir de l'Europe. Comment est-ce qu'on peut laisser aux gens qui n'ont pas eu le droit d'avoir leur mémoire, l'espace d'avoir la mémoire, peu importe l'émotion avec laquelle ça sort, et de aller avec cela dans quelque chose qui s'appelle l'amour.
À cela s'ajoute l'idée de justice, qui est une des valeurs positives de l'Europe dont Catherine a parlé. Parce que l'idée de vengeance, l'idée de haine, doit être d'une certaine façon gérée. Il y a dans les sociétés européennes une idée de justice sociale qui est donnée par les lois d'un pays ou de l'Union européenne, et d'un autre, la justice individuelle, comme on voit maintenant en Ukraine. La nation est envahie et les individus prennent les armes pour lutter contre cette invasion. Laurent, je veux te poser la question par référence à l'Europe et les différentes Europes dont nous avons parlé. Quel rôle vois-tu pour ce dialogue entre justice sociale et justice individuelle ?
Alors là, tu me poses une colle en plus à cette heure-ci. Là, de plus en plus difficile. Que dire ? Est-ce que je peux juste tricher un petit peu ? Et j'aurais bien aimé répondre à la question que tu as posée à Katharina.
C'est ton rôle qu'on m'écrive.
Voilà, alors je triche. Non, je vais peut-être finir par répondre à ta question, mais juste pour cette question de la mémoire... Moi, c'est pour ça que j'ai tenté de définir dans mon texte, finalement, ce qu'on pourrait appeler comme une identité européenne, comme un humanisme inquiet. Humanisme, parce que c'est quand même chez nous qu'est née cette belle idée, dont en fait on a beaucoup parlé sans vraiment la traiter directement. Quand on parlait du changement de point de vue, c'est une des définitions de l'humanisme, en tout cas c'est celle que donne par exemple Patrick Boucheron. Être capable de changer de point de vue, c'est la base de l'humanisme. Donc le gai savoir, enfin toutes ces choses-là, l'abbaye Thélème, on n'en a pas parlé, mais c'est quand même aussi ici que tout ça a eu lieu et ça doit nous rendre aussi intéressés, curieux, joyeux et inquiets pour toutes les raisons qu'on a évoquées. C'est que nous avons régné, chacun de nos pays a régné sur le monde entier. Le Portugal a régné sur le monde à son époque, l'Espagne ensuite, la France, l'Italie. Tout le monde a régné sur un bout du monde, un gros bout du monde. Nous savons parfaitement ce que nous avons fait quand nous avons régné. Nous n'avons pas été meilleurs que ceux qui règnent aujourd'hui. Et je ne peux pas croire qu'il n'y ait pas une sagesse à être ceux qui ont régné et que ce soit au passé. Ça doit nous porter une forme de... Oui, d'épaisseur. Nous avons régné, nous avons vu où ça nous a amené. Ça nous a amené au gouffre dont on parlait si souvent. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, la question est à nouveau de régner ? Moi, c'est une question qui me hante beaucoup. On entend énormément dans les discours politiques actuels sur l'Europe cette petite musique qui, au fond, consisterait à dire, je vais simplifier, mais si on veut... avoir un poids face aux États-Unis et à la Chine, il faut une construction européenne forte. Moi, c'est pas avec cet argument-là qu'on fera naître en moi, personnellement, la passion citoyenne pour un projet. Ça manque d'utopie, ça manque de rêve, et je sais ce qu'on fait quand on règne. Donc, c'est aussi une boussole. Le fait d'avoir régné, pour moi, tue définitivement le mythe là aussi dont on n'a pas parlé, du translatio imperi, c'est-à-dire qu'au gré des siècles, c'est les uns après les autres, chacun son tour, d'être le puissant du moment. Moi, j'ai l'impression que l'Europe doit avoir fait le tour de cette question-là. Et ça me plonge toujours dans une profonde mélancolie quand je vois que, aussi bien sur les questions, par exemple, de conquête de l'espace, que des questions de matières premières sous-marines, on y retourne exactement comme on est toujours allé face à l'inconnu, c'est-à-dire avec des drapeaux, avec ce sentiment de compétition, de course, de le premier qui y est a le droit de dire que c'est à lui. C'est toujours ce même mouvement-là. Or, il me semble que dans cet humanisme inquiet qui nous définit, il devrait y avoir une clé pour enfin aborder les choses autrement. C'est très utopique ce que je dis, mais j'ai envie de l'être parce que j'ai envie que l'Union européenne et l'Europe affirme ce message-là. Le but n'est pas uniquement de retrouver son rang dans les grandes puissances. Ça ne peut pas être que ça. Ça serait trop déceptif. Il y a tant d'autres choses à rêver. On a parlé d'un nouveau pacte entre l'homme et la nature. Ça, j'y crois. Ça peut m'embarquer dans une aventure politique passionnante et vitale. La question du savoir aujourd'hui, du partage du savoir, la question de la liberté individuelle au moment de l'e-cyber, créer un humanisme du 2.0, ça m'intéresse. Comment est-ce qu'on protège nos données? Comment est-ce qu'on protège nos libertés? Regardons ce qui se fait en Chine en ce moment sur l'identification faciale. Enfin, je pense que sur tous ces domaines-là, l'Europe a une voix singulière à faire entendre et qu'elle ne peut pas simplement reproduire le vieux schéma de la conquête. Voilà. Je n'ai pas du tout répondu à ta question, Alberto, mais pardon.
C'est parfait. Tu as beaucoup mieux fait. Ruth?
Oui, on peut parler avec Sophocle, l'Antigone de Sophocle. Car ça, c'était une guerre civile, une guerre fraternelle. Et les frères d'Antigone se tuent l'un d'autre. Et un a protégé la cité, il a protégé les murs et l'État, et l'un et je sais que vous tous savez l'histoire. Et l'autre frère qui a besieged the city, attaqué la cité. Il n'enterrerait pas. Et Antigone, et le dialogue entre Antigone et le roi, c'est le kernel, je pense, de ce que discutons maintenant, car Antigone parle pour la justice familiale. Elle dit les dieux de underworld, de souterrain. Que va dire le dieu de nos psychés? Et le roi parle pour le dieu de justice légalité humaine. Et au but, c'était clair que la justice familiale de la relation entre frères et sœurs, c'est le plus important. Mais j'ai écouté beaucoup de performances où l'audience a applaudi Créon, le roi, pour protéger la cité, l'État.
Bye.
C'est juste pour commencer avec mes remerciements à Laurent, parce qu'il a dit exactement ce que je voulais dire. Donc, merci infiniment d'avoir les mots forts pour dire ça, parce que on a parlé de la forteresse. Moi, j'ai toujours pensé que la vraie force de l'Europe, c'est d'être fragile. Parce que nous sommes tellement précaires dans nos démocraties. Nous avons un système tellement fragile qui peut être bouleversé par n'importe quel élan de popularisme ou de une sorte d'égoïsme politique ou je ne sais pas quoi. On a plusieurs exemples autour du monde, on peut regarder. Mais la vraie force, c'est de reconnaître que nous avons fait toutes les erreurs possibles pendant des siècles. Nous avons connu les conséquences nous-mêmes, dans le sens que nous avons parlé pendant notre déjeuner encore, contre Passo. Nous avons vu qu'il y a des conséquences. Et je veux juste ajouter une petite exemple de la justice un peu ironique. On a parlé des grands sens de justice pour les crimes qui sont sans nom et sans fin. Mais il y a aussi une sorte de justice ironique qui se passe devant nos yeux en Europe aujourd'hui. Et c'est que, après avoir été sourde, après être sourde et aveugle contre toutes les douleurs qu'on a commis dans le monde en tant que colonialiste ou n'importe quelle sorte de pouvoir sur tous les autres peuples. Maintenant, on est obligé, les représentants de nos nations dans l'Union européenne, nous sommes ironiquement obligés d'être assis pendant des heures et des heures en entendant les opinions sans cesse des autres parmi nous. Donc, nous sommes obligés. Nous sommes dans un sens punis par notre vraie démocratie, l'exigence d'être patient parce que la consultation est difficile avec les gens, avec les opinions tellement différentes que nous sommes, que nous avons dans le monde européen. Donc notre justice est la conséquence, si vous voulez, de notre crime d'être sourde. Maintenant, il faut apprendre, comme de vous qui sont tellement patientes avec nous devant vous, qui répètent des choses sans cesse. Voilà, merci.
Bien sûr.
Je suis un moteur diesel et là maintenant, je m'emballe au bout de 6 heures. Je voudrais réagir à ce que dit Bailly, parce que je pense que très souvent, des éléments qui sont reprochés à l'Europe, à son fonctionnement actuel, peuvent être aussi retournés comme des points finalement de solidité. Et je pense, alors je vais essayer d'être rapide, mais la lenteur, on a beaucoup et on reproche souvent et beaucoup à l'Europe d'être lente. Mais la lenteur, c'est la nuance, c'est la concertation. Qu'est-ce que c'est que la vitesse en politique ? Essayons de voir le contraire. La vitesse en politique, moi, ça me fait peur dans 80% des cas. Donc il y a cette idée-là. L'autre idée me vient d'une discussion que j'ai eu la chance d'avoir avec l'ancien, ça fait très chic comme ça, mais l'ancien premier ministre italien Enrico Letta, qui venait parler d'Europe et qui nous disait que pour lui, l'expérience européenne, c'était une expérience de la minorité. Aucun pays tout seul ne peut faire passer quelque chose. Alors pour nous, Français, c'est particulièrement difficile. Parce que nous, on adore l'homme providentiel qui monte sur un cheval et qui part avec romantisme à la conquête du monde. Mais cette expérience permanente de la minorité, de la nécessité de faire des alliances, de convaincre, de parler, de discuter, je pense que c'est une solidité aussi. Elle est frustrante souvent, elle est peu convaincante pour ceux qui auraient envie d'aller plus vite, plus fort. Mais c'est aussi une base sur laquelle on peut construire quelque chose. Et je pense notamment aux grands débats qui auront lieu nécessairement dans les décennies qui viennent, parce que ce sont des enjeux de planète. Quand on va bientôt être en droit de se demander si l'Amazonie est brésilienne ou s'il faut trouver un autre statut à l'Amazonie, à la forêt amazonienne. Moi, je n'ai pas envie qu'on fasse ce qu'on veut de cette forêt amazonienne sous prétexte que ça ne regarderait que le Brésil. Je prends cet exemple, je pourrais prendre l'Antarctique, je pourrais prendre des tas d'endroits du monde qui sont des endroits, on le sait maintenant, absolument clés et vitaux pour l'écosystème planétaire. Sur toutes ces questions-là, on va avoir d'immenses conversations planétaires. Je ne peux pas imaginer que les Européens n'aient pas un pas d'avance, parce que nous, ça fait déjà 20 ans qu'on est habitué à des grandes tables où tout le monde donne son avis, où il faut avancer lentement. Je pense qu'on a une culture de la concertation qui va servir dans les années qui viennent. Et la dernière chose que je voudrais dire aussi, c'est que tous ces éléments qui peuvent paraître parfois un peu déceptifs, ça j'en suis convaincu, mais je voudrais le partager avec vous, ne peut pas nous faire oublier que cette expérience européenne que nous vivons là, et chacun a ses colères, j'ai les miennes, vous avez les vôtres, mais il y a quand même quelque chose d'inouï dans cette réunion de 27 pays qui décident de lier leur destin. Je ne crois pas que ça ait existé nulle part ailleurs, en fait, sauf si c'est un empire, ou si c'est par la force, ou si c'est sous le mode de la conquête. Je crois que toute chose meurt et tous les empires finissent par mourir, donc il est probable que cette expérience politique finira aussi par se délabrer un jour, dans 10 ans ou dans des siècles, je ne sais pas. Le jour où ce sera le cas, je pense qu'on la regardera un peu comme on regarde aujourd'hui, je ne sais pas, moi, la Sicile de Roger II, la Sicile des Normands ou El Andalus, c'est-à-dire comme un étrange moment où finalement des équilibres improbables ont tenu. Et je pense qu'il est bon aussi d'essayer de temps en temps de dézoomer un petit peu sur ce que nous vivons pour nous dire, cette chose-là, on va la regarder avec tellement d'émerveillement dans 50 ans que essayons d'avoir un tout petit peu d'émerveillement dès maintenant. Voilà.
Magnifique. Merci, merci,
merci. Peut-être on peut parler de l'Europe comme musique. Car la musique est une image de justice et de balance. Et la musique européenne est le résultat d'un processus d'évolution par beaucoup de siècles. Mais la musique, comme Orphée était le musicien archétypal de l'Occident. Et au fin, il était détruit par les Ménades. Ménades, merci. Et harmonie. Il vient de mot grec qui s'appelle harmoten, qui vient de dire fit together, joindre, comme to fit together the pegs and the lute.
Oui, une chose s'enclenche avec l'autre.
Oui, harmoten. Et pour Platon, Harmonie, c'était une image musicale et médicale et politique et sociale. L'harmonie de la cité, de l'État, était la justice. L'harmonie de corps était health.
Santé.
Et la santé. Dans la mythologie, l'harmonie soi-même était la fille d'Aphrodite et Mars. Ça veut dire sexualité et la guerre. Et l'harmonie a un collier qui avec un with a curse, a cursed.
Cursed. Une malédiction.
Avec une malédiction, car le mari d'Aphrodite était très très enragé que Aphrodite a une jeune fille avec son amour, pas Mars, Hermès. Et la malédiction, c'est quelqu'un qui vole cette collier va être détruite. Ça veut dire que harmonie est un produit de amour, sexualité et violence, et elle est encerclée de violence. Et avec la lutte, si on peut pas tourner les choses, vous avez disharmonie. Ça, c'est la vulnérabilité que tu parles. Et l'harmonie, c'est un très, très c'est quelque chose de très fragile. Et oui, ça.
Je vous rappelle que Ruth Pedel, comme poète, son dernier livre est sur Beethoven. Elle a tracé la vie de Beethoven et son œuvre en plusieurs poèmes qui parcourent la vie du compositeur. Donc, elle est très au courant du langage musical, mais ça sert vraiment à comprendre le sens de cette justice de l'Europe. Qui d'ailleurs est géré par la musique des planètes, ouais. Cette ancienne idée. De là, je veux passer à une autre caractéristique de l'Europe que nous avons traitée en parlant de Kafka, qui tient à ce que Laurent disait de positif, de cette lenteur, de ces codifications du dialogue de l'Union européenne, mais aussi qui pose des problèmes dans des cas comme celui des immigrants, des réfugiés ukrainiens qui sont détenus à la frontière. Donc c'est la bureaucratie. Vous voulez adresser le problème ou la question de la bureaucratie comme caractéristique européenne.
Je pense que les premiers documents d'écriture à Europe étaient les documents bureaucratisés avec les tablettes à Knossos, à Crète, les tablettes en linéa B. Tous les documents de mesure, de l'huile, de mouton, combien de... c'était bureaucratisé dans le 18 ans avant Jésus-Christ. Et c'est ça, la civilisation commence avec la bureaucratisation.
Et la bureaucratie est aussi à l'origine de l'écriture, parce que les premières tablettes que nous conservons de la Mésopotamie sont des tablettes bureaucratiques. Donc ça rejoint, Laurent, l'aspect positif dont tu parlais. Nous avons besoin de cette bureaucratie à l'origine de notre société.
Alors, ça fait bizarre comme phrase, hein, parce que je pense qu'on est tous d'accord pour détester cet aspect-là de la bureaucratie. Et c'est d'ailleurs très injuste, c'est une petite parenthèse, mais que Bruxelles soit devenu le symbole. Quand on dit Bruxelles, on y met justement tout ce qu'il y a de bureaucratique, de pinailleur, d'absurde, d'imposé par le haut, alors que c'est une ville qui, dans son esprit, je trouve, et j'ai toujours trouvé, qui est l'inverse de tout ça, et qui mérite particulièrement peu d'être l'incarnation de cette chose horrible d'une entité administrative aveugle. Bruxelles est pleine d'humour, et voilà, je ne trouve pas que l'esprit bruxellois soit du tout de ce côté-là. Sur la bureaucratie, juste, oui, je crois qu'on est dans un très bel exemple, et c'est pour ça que le fait de l'avoir choisi dans ton parcours autour de ce mythe est particulièrement juste, c'est que c'est un très bel exemple de l'ambivalence. Il est très facile de faire la liste infinie de toutes les absurdités, les empêchements, les ralentissements, les choses vraiment insupportables que génère cette bureaucratie. Et en même temps, elle est née aussi parce qu'elle portait la raison d'État. Elle voulait préserver les plus faibles. Moi, je pense toujours à l'Italie du Sud, pardon, hein, de faire cette référence, mais il y a une culture très forte en Italie du Sud de la raccomandazione. Si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, vous êtes sauvé. Et le jeu consiste encore aujourd'hui, hein, ne nous leurrons pas, à fonctionner comme ça. C'est-à-dire que ben, la bureaucratie, c'était aussi, dans son acceptation première, une manière de lutter contre le fonctionnement clanique. C'est de dire que tout le monde, a priori, doit remplir le même dossier et aura peut-être, allez, soyons utopiques, la même chance. Donc on est vraiment là, je crois, dans l'ambiguïté fondamentale, et puis aussi les choses aussi simples que les actes de propriété, les délimitations de terres, toutes ces choses si importantes et qui génèrent tant de sang aussi quand elles sont mal définies sur plusieurs générations. C'est aussi une manière de prendre en charge cet aspect-là des relations sociales. Donc on est dans l'imbroglio effectivement parfait.
Katharina, quand tu travaillais au gouvernement, est-ce que tu trouvais la bureaucratie positive ou négative?
La démocratie?
La bureaucratie. Ah, la démocratie, si tu veux répondre aussi.
La bureaucratie, c'est un mal nécessaire. Donc quand les pour moi, donc, est devenu un mal nécessaire, peut-être plutôt. Quand on a quand les sociétés deviennent de plus en plus complexes, il faut les organiser. Donc, il faut des systèmes d'administration. Donc, il faut et tout d'un coup, ces processus grandissent chaque fois. Et en Europe, pour construire l'Europe, ça a une complexité encore plus grande parce qu'on a plusieurs langues, en fait on a plusieurs cultures de relations, comme Laurent dit, les cultures des pays du Sud, on a cette culture de la connaissance, et même par rapport aux impôts, c'est très normal que dans les pays du Sud, toujours, on essaie de fuir les impôts. C'est quelque chose que dans le nord d'Europe ne se passe pas. Donc il faut créer un corpus avec une certaine homogénéité pour gérer cette diversité. Donc on est toujours c'est le grand atout de l'Europe, c'est cette unité dans la diversité. Et qu'est-ce qu'on parle quand on parle diversité? On parle diversité de langue, de culture, de moyens de vie. Et puis il faut avoir une traduction pratique de ça. Et ça, c'est la bureaucratie. Et donc, oui, la bureaucratie, c'est devenu... aussi l'Europe a commencé avec 6 pays, puis 7, puis 10, puis 12, maintenant à 27. Et là, c'est vraiment un grand défi quand on parle aujourd'hui sur l'Union européenne. Comment est-ce qu'on peut, d'une façon effective, gérer toute cette complexité? Et bon, je crois que c'est difficile de penser comment ça peut se passer, parce que en fait il faut de l'organisation. La question, c'est que l'organisation est devenue quelque chose en soi-même, et on s'est perdu dans l'organisation, et donc l'Europe a perdu l'âme qu'elle avait ou elle n'avait pas. Mais au début, je crois qu'elle avait beaucoup plus. Et donc, ce que les gens aujourd'hui, donc jusqu'à, je crois que vraiment maintenant, la guerre d'Ukraine, c'est vraiment quelque chose de marquant, parce que jusqu'à très peu de temps, quand on parlait de l'Europe, on parlait de la bureaucratie européenne. Maintenant, on a tourné un peu notre vision d'Europe pour nous confronter avec, nous faire penser à ce que, au-delà de la bureaucratie, qu'est-ce qu'il faut faire. En tout cas, tous les systèmes, moi que j'ai travaillé beaucoup de temps, la politique, au gouvernement, c'est quelque chose qui m'énerve beaucoup. Je suis un peu comme Alberto. J'essaie toujours de dire, Alberto, ça va prendre du temps, construire ta bibliothèque, etc. Mais moi-même, je suis très, très nerveuse, impatiente. C'est quelque chose que j'étais toujours très impatiente avec la lenteur de l'organisation. Mais aussi, c'est quelque chose que tous les systèmes politiques, maintenant, aujourd'hui, se rendent compte, c'est que la politique a tellement changé. Les modèles de gouvernance, nous avons maintenant le pouvoir des réseaux. La réalité est devenue tellement complexe que gérer la réalité est de plus en plus complexe. Alors, il y a toute une science, la science de la complexité, et comment est-ce qu'on doit organiser les systèmes pour qu'ils puissent être plus efficaces dans cette complexité. Et donc ça c'est aujourd'hui c'est un lieu de recherche aussi scientifique et pratique, et donc j'espère qu'on puisse changer aller gérer peut-être un peu dans le futur cette complexité de la bureaucratie, parce que c'est vraiment quelque chose qui nous empêche, même si donc la démocratie, peut-être dans les parlements, c'est plutôt une question de négociation, mais après, pour faire les choses aboutir et pour avoir des résultats, c'est vraiment des processus très compliqués d'avoir advisory boards. Donc le processus de décision lui-même, il est très très complexe. Donc il y a beaucoup de chaînes, d'échelles de décision, et donc ça fait que même la réalité se trouve très opaque. Donc c'est ce que les gens critiquent à l'Europe, comment les décisions sont prises. Personne n'entend pas vraiment bien comment les choses se passent. D'un côté, on a cette obsession avec le manque de corruption, mais le système en soi-même est tellement complexe qu'il y a très peu de gens qui savent se débrouiller là-dedans. Et donc, c'est un paradoxe. Et je ne sais pas comment est-ce qu'on voit... On va le résoudre. Il y a des gens qui ont beaucoup d'espoir à la technologie digitale, mais je ne sais pas. Je suis très sensible au problème, parce que c'est quelque chose... Je suis quelqu'un qui aime faire des choses, des projets, donc toujours il y a des obstacles. Mais vraiment, d'un autre côté, je comprends qu'il faut organiser toute cette complexité. Donc, comment le faire de la façon la plus équilibrée possible.
Oksana, ton expérience de la bureaucratie, positive ou négative?
Je peux vous parler peut-être de la bureaucratie et la situation extrême, comme la situation extrême en Ukraine, la question des réfugiés et traverser les frontières. Et ce qui est intéressant, la question ne se pose pas sur l'angle de l'Union européenne, mais la responsabilité de chaque pays et chaque gouvernement de pays européen. Parce que après la guerre, après le déclenchement de la guerre, la question se posait de traverser la frontière pour les réfugiés. Mais on connaît très bien qu'il y a la règle pour traverser la frontière, il faut présenter le passeport. Donc, s'il y a le passeport biométrique, c'est, on peut dire que c'est assez simple. Mais dans l'état de guerre, il y a possible qu'il n'ait pas du tout le passeport étranger, parce qu'en Ukraine, on possède le passeport intérieur, c'est comme une carte d'identité en France. Donc, on peut avoir que le passeport qui est écrit en ukrainien, ou tout simplement, suite au bombardement, il n'a plus rien. Et donc, la question se pose, comment on peut traverser la frontière? Et ce qui est très intéressant, vraiment, ce n'est pas l'Union européenne qui a pris la décision, mais c'est le gouvernement de chaque pays européen qui a défini des règles, comment il faut traverser la frontière. Et ce qui est très intéressant, c'est que le pays de, voisin de l'Ukraine, vraiment, ont facilité ce processus. Donc, du coup, par exemple, la Pologne et des autres voisins, on a dit que ce n'est pas nécessairement avoir le passeport. Vous pouvez venir avec passeport intérieur, avec permis de conduire ou avec n'importe quel papier ukrainien qui peut prouver votre nom ou prénom au moins. Et on a parlé un peu de digitalisation. Oui, je crois à ça parce qu'en Ukraine, on a commencé une réforme et on a fait quelque chose dans nos téléphones portables. Heureusement, il y a à peu près 2 ans, on a mis le passeport étranger et permis de conduire dans le téléphone portable. Beaucoup de monde. Et c'est vrai que parmi certaines personnes de réfugiés, se retrouvaient personnes qui ont uniquement le téléphone portable, mais ils n'ont pas de papier. Mais c'était possible d'entrer dans ce système ukrainien, en Pologne, et voir tous les papiers dans la façon électronique. Donc oui, il y a déjà l'exemple que la digitalisation, ça peut aider et ça peut aider dans les situations vraiment extrêmes. Et déjà, il y a quelques pays du monde qui s'intéressent à cette technologie ukrainienne. Ensuite, l'exemple très concret, les gens possèdent des animaux. Donc il y a l'évacuation avec des animaux. Mais peut-être l'animal n'a pas le passeport et même il n'est pas vacciné. Est-ce qu'il y a la solution? Oui, la solution existe, la solution est très simple, mais ensuite, c'est grâce aussi au peuple. Quand les Ukrainiens ont traversé la frontière de Pologne avec l'animal, sans passeport et sans vaccination, c'est les volontaires polonais qui ont fait rendez-vous chez vétérinaire et très rapidement, les animaux étaient vaccinés et chippés et ils ont obtenu le passeport vétérinaire. Donc, du coup, dans les situations extrêmes, on peut trouver une solution. Juste, il faut voir le désir. Pourquoi la Pologne a réussi quand même de gérer cette entrée vraiment des millions et millions d'Ukrainiens? Oui, la Pologne a réussi. Il m'est difficile un peu de dire quelle était exactement la règle de la part de la France, parce que j'ai eu quand même un passeport biométrique. J'ai traversé la frontière avec passeport biométrique. Mais il y a cet exemple, qu'il y a la réaction. Donc, ce n'est pas que question aussi de l'Europe, c'est aussi peut-être aussi la responsabilité du gouvernement national et du désir de trouver une solution. C'est que l'un des aspects, parmi ces solutions, oui, je vois cette digitalisation qui peut peut-être résoudre certains problèmes.
Avant de passer aux questions du public, j'en suis sûr que vous en avez, je voudrais vous poser la question la plus simple et la plus difficile. Et vous la répondrez comme vous voulez, en 2 mots ou en 10. Pour chacun d'entre vous, qu'est-ce que c'est l'Europe? Bye.
C'est
micro.
Oh oui. Ah, qu'est-ce que c'est l'Europe? Pour moi, à cet instant, c'est la possibilité d'être ici parmi vous, vraiment. Sinon, je ne pouvais pas être capable de parler même. C'était l'accueil d'un des pays de l'Europe qui m'a donné le droit d'être ici. Donc, c'est la gratitude vers l'Europe pour le moment. Et juste pour un instant de recueillir tout ce qui était dit par rapport à la bureaucratie, j'ai constaté quelque chose ici en France. Les gens sont très prêts tout de suite d'aller dans les rues pour les protestations, les manifestations contre. C'est magnifiquement français de faire ça. Mais en même temps, j'ai constaté, depuis que je suis venue ici, que vous êtes les peuples le plus près de dire quand les choses sont difficiles ou lentes ou complexes ou peut-être la santé ne va pas ou peut-être il y a des défis difficiles financiers, etc. Vous dites, ah, mais c'est normal. Vous dites, c'est normal. Et je me disais, mais comment, qu'est-ce que vous dites comme ça? Quel est normal? Mais c'est vraiment normal d'avoir les défis et les tensions et les graves problèmes. Ça, c'est normal pour le progrès d'une société. Et donc, c'est normal en Europe d'avoir des défis. Merci.
Merci. Ruth.
Oui, pour moi, c'est une histoire. J'étais avec une amie, Eva Hoffman, qui a écrit, elle est polonaise, elle a écrit beaucoup de livres très forts sur le Holocauste. Et j'avais le privilège d'accompagner à Poland. Et la première nuit, nous étions dans une place à Warsaw. Et Warsaw est complètement détruite et elle est restaurée. Et nous avons bu un peu de vodka, car Eva aime qu'il faut boire le vodka quand on est au Polo. Et j'ai vu les enfants qui courent, les gens qui ont les conversations, tous les bâtiments qui étaient restaurés. C'était un moment de la paix. C'est pour moi, c'était une nouvelle société, une nouvelle cité. Et je pense, ça, je suis à l'Europe. Je ne suis pas aux États-Unis où une ville n'a pas du tout un centre. Il faut faire le ménage dans les malls. Mais ici, c'est une cité qui, à ce moment-là, a un moment de paix. Et je pense aussi à Belfast. J'étais à Belfast avec Colm Hubin après la paix. Et c'était normal. Il y avait des ivres, des vomites, sûr. Mais les autres gens qui vont au cinéma. Et c'était un moment d'une population qui est en paix.
Et Oksana, qu'est-ce que c'est l'Europe pour toi?
Peut-être je peux donner, pas mon avis, mais l'avis plutôt de l'Ukraine, ce sera plus intéressant, parce que pour nous, pour les Ukrainiens, maintenant, l'Europe, c'est très simple, et il n'y a pas de débat. Je vous rappelle que les événements en Ukraine ont commencé avec la révolution de dignité en 2013, quand l'ancien président Yanukovych, tout à coup, il a annoncé qu'il n'a plus de signature d'association avec l'Union européenne. Et qui étaient les premiers qui ont décidé de soutenir cette association? C'est les étudiants, c'est-à-dire les jeunes ukrainiens qui ont fait des manifestations. Je souligne les jeunes. Et pourquoi? Parce que pour ces jeunes étudiants et ensuite pour des autres ukrainiens, c'était l'obstacle à la voie de la liberté. Donc pour nous, l'Europe, c'est très simple, c'est la liberté et la démocratie. Donc maintenant, les Ukrainiens souvent disent que nous, on soutient les valeurs européennes. Et les Européens peuvent poser la question, mais qu'est-ce que c'est les valeurs européennes, parce que l'Europe est très bureaucratique. Mais nous, pour nous, c'est la liberté de faire le choix et peut-être l'État démocratique. Parce qu'on se trouve exactement sur carrefour. De l'un côté, on voit l'Union européenne avec le système démocratique. De l'autre côté, on a la Russie avec le régime autoritaire. Et on connaît très bien qu'est-ce que c'est le régime totalitaire et autoritaire. Et donc, on comprend très bien qu'est-ce que ce sera le retour vers le régime autoritaire et totalitaire. Voilà pourquoi peut-être les Ukrainiens sont prêts même à mourir pour la liberté. Parce que si on va faire faillite, c'est la liberté qui va faire faillite. Et peut-être, je peux même poser cette question à toute la salle, peut-être pour les Français, c'est peut-être plus compréhensible parce qu'il ne faut pas oublier liberté, égalité, fraternité. Est-ce que ce n'est pas le slogan des Français qui commence par le mot de liberté? Et peut-être vous, les Français, vous pouvez comprendre la position de l'Ukraine plus facilement.
Merci. Alessandra, qu'est-ce que c'est le...
Je sais ce que je veux dire, je ne vais pas le dire parce que c'est plus facile de dire quelque chose qui ressemble au simpliste. Donc je vais dire, je vais raconter...
Dis ce que tu veux.
Non, parce que c'est difficile de le dire pour moi. Mais je vais raconter par une histoire. C'est le mythe de la Révolution. Et je crois que ce qui est très beau, c'est une très belle histoire et peut-être ça pourrait être mon désir pour une conscience de l'Europe. C'est que quand Napoléon a voulu reprendre, réinstaller l'esclavage en Haïti, parce que la France a été le premier pays à abolir l'esclavage en 1794, et Toussaint Louverture voulait rester avec la France parce qu'il pensait que c'était plus intéressant économiquement. Et puis Napoléon a pris pouvoir et il a réinstallé l'esclavage. Et donc, voilà la révolution haïtienne. Les Polonais sont venus avec l'armée de Napoléon pour aller contre les Haïtiens qui luttaient pour leur propre liberté. Quand ils ont vu ce qui se passait, ils ont décidé de changer de côté. Donc en Haïti, il y a beaucoup d'Haïtiens avec des yeux bleus et avec des noms de famille polonaises. Ça, c'est l'Europe que moi, je veux voir.
Merci. Catherine.
Pour moi... pour moi, l'Europe, c'est un sentiment diffus, très diffus, d'appartenir à un espace de pluralité, diversité de culture et de liberté, de pouvoir choisir.
Laurent, en Europe,
alors, à la fois, je dirais d'abord un héritage, mais on en a beaucoup parlé, donc je ne vais pas revenir sur tout ce que contient ce mot, mais juste pour vous rappeler l'héritage à la fois de cet humanisme qui est quand même notre identité et de ce que l'homme peut faire de pire à l'homme, les deux entremêlés, ça c'est pour l'héritage. Et puis je crois qu'il y a un socle européen dont on a peu parlé, Oksana vient de le faire et Katharina aussi, c'est que c'est le socle qui est presque invisible. Je ne sais pas si c'est parce qu'il nous semble évident ou si c'est parce qu'on voit pas son propre corps, mais rappelons quand même que, enfin, en tout cas pour moi, c'est l'Europe, c'est une zone dans laquelle il n'y a plus de peine de mort, dans laquelle la liberté individuelle est importante et protégée, la liberté de la presse, la liberté d'opinion, la liberté de penser, la liberté de croire ou de ne pas croire. Probablement une des zones qui a le plus, c'est pas la seule, mais le plus le souci d'aller vers une égalité plus grande entre les hommes et les femmes. Où le mariage s'est ouvert à d'autres réalités que simplement le schéma classique, l'IVG, toutes ces choses-là ne sont pas encore totalement partout en Europe, mais sont quand même un socle dont on parle finalement peu, alors qu'on en jouit et qu'on y tient, je crois, beaucoup, et qu'on serait désemparé de nous le voir retirer. Et puis pour finir, je crois que c'est une aventure politique. Moi, j'ai envie de reprendre ce mot qui contient peut-être un peu de souffle, un peu de désir. Camus a une très très belle expression dans la troisième lettre à un ami allemand qu'il écrit pendant la guerre, où il parle justement, où il oppose son Europe à celle que le régime nazi essaye d'imposer à l'Europe à ce moment-là. Et il termine par cette expression, nous allons continuer à essayer de la construire dans le vent de l'intelligence. Je ne sais pas très bien ce que c'est que ce vent de l'intelligence, mais je trouve que cette expression est tellement belle que j'ai envie de la faire mienne et de redire que si dans les 10, 20 ou 30 ans qui venaient, l'Europe pouvait retrouver le vent de l'intelligence, ce serait quand même merveilleux.
Merci à ces magnifiques invités qui sont la preuve de ce vent de l'intelligence. Merci. Est-ce qu'il y a un micro baladeur? Voilà. Ah ben, j'ai eu 8 semaines à vous parler de... L'Europe pour être toutes ces idées que nous avons entendues ici. Est-ce que vous avez des questions pour nous inviter? Alors, ah, voilà, monsieur.